Ouais, non, le métier de guide, de toute façon, 90% du temps, c'est des gens qui arrivent en montagne et qui veulent la découvrir. Voilà, c'est clairement ça. En haute montagne, on ne parle pas de la randonnée pédestre. Hein, on parle de dès lors qu'il faut mettre des crampons, dès lors qu'on a besoin d'une corde, etc. Après, en 2018, c'est là où j'ai fait un gros projet sur les quatre phases de la verte, de l'aiguille verte en ski de pente raide, où je voulais enchaîner les quatre phases de l'aiguille verte. Alors, monter par une face, redescendre par une autre, remonter par une troisième et redescendre la quatrième à ski. Et oui, effectivement, il y a ce projet de la Meije où on a envie de faire une grosse traversée d'arête vers la Meije au-dessus de la Grave, dans le massif des Écrins, avec un copain. Et là, ça fait 3 ans qu'on cherche un créneau déjà disponible pour tous les deux. Ça, c'est le plus dur, je pense. Et après, il faut que le créneau disponible convienne avec la météo. Ça, c'est la deuxième difficulté. Et puis avec les conditions. Donc ça fait pas mal de paramètres qui doivent se rencontrer.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Paul Bonhomme. Bonjour Paul.
Bonjour.
Et Paul, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Moi je suis père de 4 enfants, marié, je suis guide de haute montagne et occasionnellement je suis aussi un peu, on va dire, athlète en montagne. Voilà, j'ai des beaux projets en montagne.
Et alors ça commence comment cette passion pour la montagne?
Ça commence en banlieue parisienne avec des parents qui aimaient beaucoup la montagne, qui nous amenaient en vacances tous les hivers et tous les étés en montagne. Un chalet en Suisse que mes parents ont co-acheté avec mon oncle et ma tante. Et du coup, on y passait beaucoup de temps et on faisait surtout de la randonnée, essentiellement de la randonnée, un peu d'escalade et un peu de, on va dire, randonnée glaciaire. Donc, promenade sur les glaciers.
Et voilà. Ça commence à quel âge, tu m'as dit ?
Alors, ça commence assez tôt, hein, parce que dès mes 4 ans, 4-5 ans, ils avaient le chalet là-bas. Donc, on y allait, en gros, on y allait 1 à 2 semaines par hiver et puis 3 semaines à 1 mois l'été. Donc, on y allait vraiment beaucoup. Ouais. Pour un banlieusard de parisien. Hein,
ouais. Attends, et du coup, ça veut dire que même l'hiver, vous faites des balades ? T'es pas du tout ski, toi ?
Si, c'était que du ski de piste. L'hiver, c'était ski de piste. C'était ski de piste, uniquement ski de piste. Et c'est marrant parce que j'y suis encore allé la semaine dernière là, avec mes enfants et on a été voir le champ où j'ai appris le ski. C'était la remontée n'existe plus. C'était une toute petite remontée complètement obsolète. Et puis on s'amusait c'était à 100 mètres du chalet de mes parents, quoi.
Canon, ça. Et alors, ouais. Si tu commences très tôt la montagne, tu fais des balades, au fur et à mesure, ça passe de une journée à 2 journées, à plusieurs jours, je suppose. Quand est-ce que tu commences à faire le cap de te dire peut-être que tu en fais ton métier ?
Très longtemps après, en fait. Je me suis jamais dit, quand j'étais en banlieue parisienne, donc jusqu'à mes 18-20 ans, je me suis jamais dit que je pouvais en faire un métier. C'est un peu compliqué, c'est des allers-retours, beaucoup. C'est aussi une passion pour l'escalade en banlieue parisienne à partir de mes 11 ans, où là j'ai attaqué à faire de l'escalade en salle, hein, comme ce que les jeunes peuvent connaître maintenant. Hein. La résine commençait juste à l'époque où moi j'ai attaqué l'escalade en salle. On grimpait sur des parpaings au départ. Hein. C'était des trous creusés dans les parpaings avec du ciment. C'était assez marrant. C'était ça le club d'escalade à l'époque, avant que la résine arrive avec les prises artificielles, etc. Donc ça, c'était vers mes 11 ans. Et puis après, j'ai eu un grand frère qui, lui, a tout largué pour essayer d'être moniteur de ski et accompagnateur en montagne. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. J'ai vu ça de loin. Et puis, je l'ai suivi vers mes 18 ans. Et puis, je suis revenu en banlieue parisienne. Après, j'ai essayé de faire comme lui, mais je suis pas arrivé du tout. Lui, il a réussi, mais pas moi. Et puis, je suis revenu du coup en banlieue parisienne. J'ai fait un ou deux ans où j'ai pas fait grand chose. J'ai essayé d'être éducateur spécialisé, mais j'ai pas réussi non plus. Et puis après, je suis reparti en montagne, mais là, je sais plus du tout de montagne. J'étais maçon. Voilà.
Ok. Et pourquoi en montagne particulièrement?
Oh, parce qu'on avait envie avec mon ex-femme, on avait envie de se barrer de la banlieue parisienne. Qu'on avait là-bas, du coup, il y avait l'appart de mon frère qui était disponible, donc on s'est dit on va squatter un peu l'appart de mon frangin avant de se trouver un petit boulot et puis faire notre vie là-bas. Mais parce qu'on aimait l'endroit, pas forcément pour la montagne en elle-même.
Voilà. Et toujours avec ce frangin qui aujourd'hui également fait de la montagne?
Non, mon frangin, moi, il est mort en montagne en 98, au Pakistan, sur le Gacher Boom 6, en essayant de faire la première descente à ski du Gacher Boom 6 en 98. Voilà. Et moi, j'étais maçon à cette époque-là. J'étais pas du tout dans la montagne. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que tu y retournes, du coup, à un moment donné? C'est quoi le déclic?
Le déclic, en fait, c'est assez bizarre parce que personne veut me croire, mais c'est la réalité. C'est que, en fait, donc avec mon ex-femme, on a un peu fait des petits boulots à droite à gauche. On a eu des chiens de traîneau, jusqu'à 20, 23 chiens de traîneau. On a essayé de trouver une baraque parce que mes parents, après le décès de mon frère, voulaient trouver une baraque dans le coin où il est décédé, là-bas. Enfin, dans le coin où il habitait. Donc, nous, on a trouvé la baraque, mais eux, ils étaient encore en train de bosser, mes parents. Donc on trouve la baraque, on y installe nos chiens en attendant que les parents ils viennent à la retraite. On s'est dit on va essayer de faire quelque chose avec ces chiens. On n'a pas réussi à faire quoi que ce soit avec ces chiens. et puis il commençait à y avoir de l'eau dans le gaz avec mon ex-femme. On va dire ça comme ça. Et un jour en remontant chez nous là dans la baraque qu'on squattait, hein, enfin en gros c'est ça qu'on occupait à titre gracieux en attendant la retraite de mes parents, mon ex-femme me lance « Mais pourquoi tu veux pas faire guide de haute montagne ?» Et moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout, je faisais plus d'escalade depuis au moins 5 ans, je faisais plus de montagne, plus de ski. Et en fait, moi, je soupçonne qu'elle ait dit ça parce que, en gros, comme ça allait pas bien entre nous, il fallait qu'on bouge les choses. Et elle m'a dit ça comme, de toute façon, t'en es pas capable. Et puis, pourquoi tu fais pas ça? Lâche-moi les baskets, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et enfin, je l'analyse comme ça. Et moi, je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit OK. Mais je lui ai dit clairement que si je faisais ça, ça voulait dire que j'étais plus beaucoup à la maison, etc. Et ça nous a arrangé, en fait, tous les deux, je pense, dans cette période un peu compliquée. Donc moi, je suis parti à refaire mes entraînements d'escalade, à refaire du ski et à repartir en montagne. Et ça, moi, j'ai à cette époque-là, je dois avoir 22 ans, un truc comme ça, 22, 23 ans. Voilà. Et c'est ça qui a été le déclic. On s'est séparés assez rapidement derrière, une première fois. Elle est revenue. On s'est reséparés une deuxième fois, là, pour de bon. Et moi, j'étais déjà là dans la formation de guide que là, j'ai réussi. J'ai mis du temps à réussir à trouver ma voie en montagne, on va dire.
Comment tu te formes, du coup, en tant que guide de haute montagne? Ça marche comment?
Alors, à l'époque, il fallait faire une liste de courses. Donc, je ne me souviens plus exactement le nombre, mais il y avait au moins une centaine de listes de courses à faire. Alors, les courses en montagne, c'est des ascensions. C'est des ascensions soit avec les skis, en ski de randonnée, soit des ascensions en escalade, mais c'est pas des voies de une longueur, hein, c'est des voies de plusieurs longueurs qui font jusqu'à 500 mètres, voire plus de haut. Et voilà, il faut avoir fait une liste de courses qui date d'au moins 3 ans, donc les premières courses. Donc moi, j'avais de la chance d'avoir fait un premier jet vers mes 18 ans en montagne pour faire mes premières courses, notamment avec quelques-unes avec mon frère. Et du coup, voilà, c'est cette liste de courses qui te permet d'accéder au probatoire Donc, ils acceptent la liste de courses ou pas. Et après, le probatoire, c'est, on va dire que c'est un examen d'entrée. À l'époque, c'est toujours d'ailleurs, un examen d'entrée qui est très axé sur la technique, c'est-à-dire le niveau en escalade, le niveau à ski, le niveau en cascade de glace, le niveau en cramponnage sur les glaciers, la caisse physique. Voilà, pour schématiser.
Et tu t'emmènes du coup très vite derrière des groupes. Tu mets combien de temps à être formé ?
Alors, maintenant, c'est 3 ans pour être guide, pour avoir le diplôme de guide. Et pendant les 3 ans, il y a plusieurs stades où tu peux commencer à encadrer et à amener des gens en montagne, mais avec des prérogatives. Donc, au départ, tu peux juste faire de la raquette. Tu peux pas les amener à ski, par exemple. Et après, tu peux, quand tu passes tes unités de formation, tu peux les amener à ski. Mais d'abord sur une journée, après sur plusieurs jours, etc., etc. Et ça, ils ont mis en place ça depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. C'est plus du contrôle continu que nous, ce que nous on avait à l'époque, qui ça durait 5 ans. Où là, par contre, c'était pendant 2 ans, c'était de la formation continue pour être aspirant guide de haute montagne. Et là, c'était un diplôme. Donc, on pouvait commencer à amener des groupes avec certaines prérogatives, mais beaucoup moins limitées que maintenant. Et puis, il fallait de toute façon faire des courses avec des clients pendant un an complet, donc on va dire 2 saisons. Et après, revenir pour passer le guide. Et ça durait 5 ans à l'époque.
Et c'est quoi les groupes de personnes que tu emmènes du coup à l'époque ? C'est plutôt des petits jeunes, c'est des familles, comment ça se passe ?
Non. Ouais, c'est un peu de tout, rarement des jeunes. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de jeunes en montagne, mais à l'époque, il n'y avait pas encore trop de jeunes. Je parle de ça il y a 16 ans, hein, tu vois. C'est souvent quand on est aspirant guide, c'est souvent des débutants qu'on amène quand même, des gens qui connaissent pas grand chose. En montagne et qui font plutôt de la randonnée glaciaire. C'est des courses pas très techniques, pas trop techniques. Après, une fois qu'on est guide, on peut amener des gens plus compétents, et etc., qui s'y connaissent mieux. Ouais, non, le métier de guide, de toute façon, 90% du temps, c'est des gens qui arrivent en montagne et qui veulent la découvrir. Voilà, c'est clairement ça. En haute montagne, on ne parle pas de la randonnée pédestre. On parle de dès lors qu'il faut mettre des crampons, dès lors qu'on a besoin d'une corde, etc.
Et c'est souvent des gens qui ont déjà fait de la randonnée justement pédestre et puis qui veulent se lancer dans des trucs plus grands, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Alors maintenant, avec la mode du trail, il y a de plus en plus de trailers qui viennent aussi. Il y a aussi des liens avec les clubs d'escalade, des gens qui grimpent en salle mais qui veulent faire du rocher en haute montagne mais qui savent pas trop mettre les crampons, etc. Donc voilà, il y a un peu tous ces publics qui ont déjà qui ont connaissance du milieu de la haute montagne et qui veulent la découvrir mais qui ont déjà un bagage technique, soit en randonnée, soit en trail, soit en escalade.
Ok. Ouais, et question bête peut-être, mais l'ascension en haute montagne, t'en fais en France, je suppose, il y a quand même deux, trois trucs à faire, ou est-ce que tu pars directement à l'étranger ?
Ah non, le gros, on va dire, ce qui est le plus demandé en France, par exemple, c'est le Mont Blanc. Ouais. Voilà. Le guide de haute montagne, il amène les gens au sommet du Mont Blanc. Pour donner une idée un peu, comment dire, caricaturale, c'est ça. Même s'il y a plein d'autres sommets en France qui peuvent se faire et qui sont plus durs que le Mont Blanc et pas plus jolis, mais au moins aussi beaux. Voilà. Et puis après, tu vas à l'étranger. Ouais, ça m'est arrivé d'aller au Népal, ça m'est arrivé d'aller en Norvège, etc.
C'est canon, ça. On peut en parler peut-être, ouais. de ces monts-là. Enfin, le Mont Blanc m'intéresse évidemment aussi. Ça m'intrigue de comprendre un peu quand tu pars à l'étranger. Est-ce que tu es dans une optique de préparer parce que tu es sollicité par des gens à l'étranger ? Est-ce que c'est l'équipe de groupe de Français avec qui tu pars là-bas ? Comment ça se passe ?
Alors moi, l'essentiel de ma clientèle est française. Et ils ont des idées de voyage ou de voyage. Et du coup, moi, je passe par une agence, c'est Alibert, pour organiser ces voyages parce que c'est plus simple pour moi, hein, tout simplement, et c'est moins cher pour les clients. Donc, on est tous les deux gagnants. Enfin, on est tous gagnants. Après, on peut aussi l'organiser soi-même. C'est beaucoup plus de temps pour le guide. Et du coup, comme c'est plus de temps pour les guides, c'est un peu plus cher pour les clients. Voilà. Mais, ouais, c'est une organisation en France pour aller à l'étranger. Ouais. C'est ça la réponse à ta question.
Et comment ça se passe typiquement? Tu parlais du Népal, c'est des monts. En Népal, on est dans des 8000, j'imagine. Ça va être des très très hautes.
Non, là, moi, j'amène pas. J'en ai déjà fait un de 8000, mais j'amène pas de gens là-haut parce que je m'estime pas, comment dire. Si je vais sur un 8000, c'est sans oxygène. Et sans oxygène sur 8000, même moi, j'ai du mal à me gérer. Donc, je pourrais pas gérer quelqu'un au niveau de sa sécurité, etc. Du coup, c'est plutôt des trekking peaks, comme ils appellent ça. C'est des sommets qui montent jusqu'à 6000, 6500 mètres. Voilà. Jusqu'à là, ça va, j'arrive à bien me gérer et puis j'arrive à gérer la sécurité du groupe. Et du coup, c'est un sommet, mais qui est dans un package de 3 semaines, 21 jours généralement. Du coup, il y a tout le trek pour arriver vers le sommet et puis il y a tout le trek pour revenir du sommet. Il y a aussi de la visite du Népal, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans un séjour comme ça.
Ok. Tu parlais effectivement de cette partie trekking. Quand t'emmènes un groupe, du coup, ça représente combien de personnes typiquement ?
Pour un trek au Népal, comme on est aidé avec les locaux, ils appellent ça des sherpas. C'est pas vraiment juste, mais on va dire c'est des guides locaux qui nous aident. Donc on peut amener jusqu'à 11 personnes. On va dire, ouais. C'était à l'époque, c'était jusqu'à 11 personnes. Maintenant, moins c'est mieux. Donc on va dire en moyenne j'étais plutôt sur 8-9 personnes, voilà.
Okay.
Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 11, mais en moyenne c'était 8-9.
Et donc pour revenir sur les différents exploits que tu as dû faire toi à titre personnel, bon, j'ai vu passer 2-3 idées intéressantes entre le Kiaras en moins de 3 jours. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce type de défi perso?
En fait, depuis que j'ai eu le guide, une fois que j'ai eu le guide, il y a pas mal d'histoires qui se croisent, on va dire. Il y a l'histoire du décès de mon frère, hein, clairement en montagne, qui m'a amené à aller plus en montagne aussi, etc. Donc j'ai une relation à ça, et lui il voulait passer le guide de haute montagne, il voulait passer ce diplôme. Donc moi quand j'ai eu ce diplôme, j'ai dit bah voilà, ça c'est fait, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Donc là, ma première réponse, donc pendant quelques semaines j'ai été un peu paumé, j'ai dit bah voilà, maintenant ça c'est, j'ai plus besoin de faire ça, donc qu'est-ce que j'en fais? Bah j'ai dit bah je vais le faire quoi, je vais être professionnel guide de haute montagne. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête quand même cette idée que, enfin, c'est arrivé petit à petit, mais cette idée que la montagne, moi, ça m'a. Je dis souvent que la montagne, elle m'a un peu sauvé la vie, parce que à l'époque où ça se passait pas très bien avec mon ex-femme, je me suis retrouvé pendant 1 ou 2 ans vraiment seul et sans une thune, quoi. J'étais dans la maison de mes parents, hein, clairement, mais je gagnais pas un rond, je faisais que de la montagne, je bouffais du riz et du riz, donc j'avais rien d'autre que de la montagne. J'avais même pas de quoi m'acheter des barres énergétiques ou quoi. Et là, s'est posé la question de je picolais un peu aussi, je buvais un peu du vin, etc. Et je me disais mon équilibre. Bah, je suis parti sur la montagne, quoi. Je suis pas parti dans l'aspect obscur de la vie. J'aurais pu très bien, suite à donc au décès de mon frère et puis à cette séparation, partir complètement en live. Et puis, j'étais vraiment pas loin de basculer du mauvais côté. Donc cette montagne qui m'a tant donné. Je me suis dit mais non, moi j'ai envie de lui redonner en échange, quoi. Et j'ai essayé, c'est ce que je fais dans mon métier de guide, hein. J'essaye d'être le plus partageur possible avec les clients pour leur faire comprendre la passion et pour que eux ça les amène aussi à se poser des questions sur leur propre vie, sur ce qu'ils en font, etc. De comment ils peuvent progresser avec ce que la montagne peut leur apporter. Donc ça c'est une partie, mais ça me suffisait pas. Donc après je me suis lancé pendant plus de 6 ans J'ai été au syndicat des guides de montagne, donc c'est un syndicat français, hein, c'est pas un syndicat politisé du tout, mais c'est un syndicat qui a été monté pour que les guides de haute montagne aient une parole au niveau des ministères, des sports, etc., une parole publique pour que les guides puissent se réunir et puissent avoir une voix là-dedans et puis revendiquer certaines choses. Donc, je me suis investi là-dedans pendant 6 ans, beaucoup, pour justement aider la profession avec ce que je pouvais, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, mais en tout cas, voilà, ça me tenait à cœur. Et puis, à un moment donné, il y a eu un changement à la tête de ce syndicat. Je ne me suis plus trop entendu avec les nouveaux arrivants. Et j'ai décidé de démissionner. Et là, je me suis retrouvé dans la même situation que quand j'étais guide. Je me suis dit, bon, ok, le guide c'est bien, mais j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie d'apporter des choses. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai 40 ans, j'ai encore un peu d'énergie. Je vais essayer de monter des projets pour faire voir la montagne comme moi je l'aime au plus grand nombre, si ça intéresse les gens. Et puis c'est ce qui m'a amené à faire tous ces projets. Et je suis content parce que ça marche. Je trouve que, enfin, il y a pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux, etc. Et pas forcément pour l'exploit en lui-même que je fais, parce que finalement, ce que je fais, ça peut paraître difficile pour la plupart des gens, mais techniquement, par rapport à ce que font d'autres alpinistes, qui sont nettement meilleurs que moi, c'est pas si difficile, quoi. Je suis pas dans des choses techniquement très, très, très pointues. Je suis juste dans des projets un peu originaux. Et c'est ça que j'essaye de montrer, des projets originaux, avec lesquels certaines personnes peuvent s'identifier, tu vois, des bouts de projet, par exemple sur la traversée du Kera dont tu parlais. Moi j'ai fait le tour des arêtes en 3 jours, mais si on prend bout à bout, il y a plein de gens qui ont été dans le Kera, qui se sont baladés et qui ont fait des bouts du projet que j'ai pu faire. Et là je me dis, ça c'est cool, parce que les gens ils peuvent se mettre à ma place et puis se dire, ah ouais, tiens, lui il a fait ça. Moi aussi, j'ai fait un bout de ça. Et ça, c'est cool. Moi, ça me plaît, parce que je me dis, tu intéresses les gens sur des choses qui sont en capacité de faire. Et ça, c'est essayer d'ouvrir la montagne au plus grand nombre, quoi. Voilà.
Mais une particularité quand même, c'est que tu fais ça quasi exclusivement en France.
Oui, mais ça c'est pareil. C'est moi j'ai un bon pote là, Didier Angelot, avec lequel on discute beaucoup sur la montagne, qui lui est dans le haut niveau. Hein. Lui il fait en escalade, il fait du 8B+. C'est très 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 difficile. Et on en a pas mal parlé parce que c'était à une époque où il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de, comment dire, les phares du grand public étaient tournés vers Wellichtek en Suisse, ou Kilian Jornet en France. C'est des gens qui font du trail, qui font des choses très difficiles, qui ont des capacités physiques qui sont hors du commun. C'est des gens, c'est des héros, mais avec lesquels tu peux pas vraiment t'identifier. Et puis surtout, ils se basaient sur le temps, sur la vitesse, je fais 2 fois l'Everest en 3 jours. Et nous, on se disait, mais nous, en montagne, c'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant. Nous, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est l'aspect exploratoire, c'est l'aspect proche, de proximité, pas besoin d'aller à l'Everest pour faire des belles choses. Et tout ça, on s'est dit, comment on fait ça? On va essayer de monter des projets. Donc, au début, on était tous les deux à monter des projets. Et puis, petit à petit, on est toujours tous les deux à monter certains projets, mais on n'arrive plus à se caler au niveau des dates. Donc moi, je le continue aussi un peu de mon côté tout seul ou avec d'autres amis. Et puis voilà. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de essayer de monter des projets qui ont du sens et avec lesquels les gens peuvent s'identifier, même si parfois, je fais de la pentraide aussi, etc. Mais ça reste des projets de proximité, ça reste des projets en France, en Europe, c'est pas de mon fait, mais l'actualité fait que effectivement, avec ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, etc., on a plus tendance à se dire Moi, je me pose plus de questions, clairement, pour aller faire des projets au Népal et ou dépenser, tu vois, mettre un billet d'avion pour aller faire des projets à l'autre bout de la planète. Je me dis, ouais, c'est chouette, je continuerai à en faire, mais certainement, j'en ferai moins. À une époque, j'étais quand même au Népal au moins une fois par an, quoi. Donc une fois par an, tout seul, tu prends ton avion, etc. Ton impact, il est quand même pas négligeable. Voilà.
Oui. Mais alors, pourquoi faire ces projets? Typiquement, j'ai lu ça au profit d'une association. Qu'est-ce qui te motive dans cette démarche-là?
Je pense que ça, c'était au début. J'ai fait ça deux fois. J'ai fait ça pour le Kera et puis pour la traversée des Aravis. Pour le Kera, c'était assez simple. C'est qu'à un moment donné, avec mon épouse actuelle, avec Véro, ma chérie, on s'est dit, merde, il y a la crise des migrants, etc. On n'arrivait pas à trouver des moyens. On se sentait pas de rentrer dans une association. On n'était pas, soit on n'avait pas le temps, soit on n'avait pas le courage, je sais pas, pour être tout à fait honnête, ou un peu des deux. Et moi, je me suis dit, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai demandé à des amis là qui bossent dans l'humanitaire. Ils m'ont conseillé sur quelle était la meilleure association pour l'aide aux migrants. Et ils m'ont dit, clairement, que c'était la Croix-Rouge. Donc, je me suis dit, je vais essayer de monter un projet. C'est simple sur Internet de monter des projets comme ça au profit d'associations. Ça se fait beaucoup et moi j'ai fait ce tour du Kera par les arêtes au profit de la Croix-Rouge et ça avait bien marché la première année. Pour la Croix-Rouge, j'avais levé pas loin de 7000 euros, donc j'étais assez content. Donc j'ai réessayé ça l'année d'après et là forcément, quand tu refais ça trop souvent, tu lèves un peu moins de fonds et ça a moins de sens aussi. Donc je pense que voilà, c'est. Je me suis dit, faut pas non plus en abuser. Peut-être, je le referai certainement un jour, mais faut pas en faire trop souvent parce que ça peut être aussi à double tranchant. Ça peut être aussi un moyen pour toi de te dire, ouais, mais tu te fais plaisir et puis tu fais ça, c'est une excuse pour faire ton projet, quoi. Donc je me dis non, faut pas que ça devienne une excuse pour faire mon projet. Faut que moi je fasse un projet et puis si ça a du sens pour moi de lever des fonds pour une assoc, c'est bien. Si ça en a pas, faut pas que je le fasse. Voilà.
Tu disais qu'effectivement, tu avais la sensation de pas forcément faire des projets très compliqués en comparaison à des alpinistes de plus haut niveau que toi. Est-ce que pour autant, c'est facile? Est-ce que pour autant, c'est trois jours à la douce et dodo à la belle étoile? Ou est-ce qu'il y a quand même des problèmes qui surviennent? Enfin, tu vois, comment ça se passe?
Ouais. Non, disons que c'est plus simple techniquement. C'est ce que je disais, c'est que techniquement, c'est sûr que les projets que je monte, ils sont pas forcément aussi durs que des gens qui vont ouvrir une nouvelle face au fin fond du Pakistan, par exemple, sur un sommet vierge à 6000 mètres. C'est vrai que techniquement, moi, je fais pas ça parce que déjà, en Europe, c'est dur de trouver des faces vierges, même si ça m'est arrivé en ski de pente raide, mais pas en alpi. Mais par contre, physiquement, c'est là où je pousse un peu le bouchon, où j'essaye aussi d'être logique dans ma démarche de moindre impact environnemental. C'est que je pars de la vallée, je rentre dans la vallée. Je pars d'un point, par exemple là pour le Kera, je partais de Guillestre et puis je revenais à Guillestre. Donc c'était vraiment ne pas utiliser les remontées mécaniques, ne pas avoir d'hélico qui te suivent pour faire des images, etc. Éviter les potes qui viennent te ravitailler avec la bagnole à droite à gauche parce que voilà, ça a un impact. Enfin, donc essayer d'être le plus pur possible dans ta démarche de montagne. Donc il y a cette idée d'impact et il y a aussi l'idée de se dire ouais mais pour une personnalité qui est connue, qui est suivie, avoir des gens qui te gèrent tes ravitaux, c'est simple. Pour quelqu'un qui veut faire ça pendant ses vacances, c'est pas possible. Donc la vraie montagne, la montagne comme moi je l'ai appris quand j'étais gamin, c'était tu pars d'un point A, t'arrives à un point B par tes propres moyens, et puis c'est ça la montagne, quoi. Et j'aime bien cette idée de remettre ça au goût du jour Et ça, ça implique effectivement de la difficulté au niveau logistique, au niveau de l'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement pour être... c'est parfois des journées de 20 heures en montagne, hein, 20 heures en montagne. Donc, physiquement, faut être bon. Et puis, j'aimais bien aussi cette idée de mélanger les activités entre le trail, essayer de courir le plus possible, même si tu cours pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, d'aller le plus rapidement possible, être le plus léger possible, parce que comme t'as pas de ravito, comment tu fais pour être léger sans ravito, c'est pas simple. La gestion de l'eau, notamment en montagne, c'est très compliqué, surtout quand tu pars sur les arêtes, parce que t'as pas d'eau, hein, y a pas de rivière, y a pas de source, y a rien. Donc il faut s'entraîner aussi à être en déshydratation, etc. Donc tout ça, ça complique les aventures que je peux monter ou les projets que je peux monter. Voilà, mais techniquement, ça reste accessible. Ce qui va être compliqué, c'est au niveau logistique, au niveau entraînement, parce que ça, par contre, pour le coup, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps à courir, à se préparer au niveau nutritionnel, au niveau de l'hydratation, au niveau rusticité. Voilà.
Et depuis ces deux-là, tu en avais une troisième que j'ai cru comprendre que tu n'avais pas forcément réussi. Tu étais déjà à la troisième tentative à l'époque. Le Meij.
En fait, j'en ai eu beaucoup. Hein, donc, il y en a eu beaucoup dans 4 ans. Là, donc, il y a eu. Ça a attaqué par un. Je sais pas si on a le temps de tout dire, mais ouais, peut-être. On a le temps de dire pas mal de choses. En fait, ça a attaqué en 2016 par un hommage à un grand nom de l'alpinisme qui est toujours en vie. C'est Robert Flemati, qui était le compagnon de René Desmaisons. Je sais pas si ça parle à pas mal de gens, je pense, René Desmaisons. Et qui a ouvert pas mal de voies dans les Balaïtous. C'est un massif dans les Pyrénées. Et nous, on a été, donc avec mon copain à l'époque, on a été répéter ses voies et les libérer. Ça veut dire refaire les voies qu'il a faites et surtout essayer de faire tout en escalade sans céder des pitons qu'il y avait en place ou sans tirer sur la corde. Donc ça, on avait fait ça dans l'été 2016. Après, j'ai eu mon tour du Kera par les arêtes. Après, en 2017, j'ai fait une traversée entre Annecy et Chamonix. Pareil, un mixte entre du trail et du ski de randonnée. C'était au printemps avec une bande de copains en 6 jours. Après, en 2017, en 2016, j'étais parti au Népal aussi pour essayer de faire une face avec un copain sur le Pumori, sur un 7002. En 2017, j'ai fait la traversée des Aravis. À l'automne. Après, en 2018, c'est là où j'ai fait un gros projet sur les 4 phases de l'aiguille verte en ski de pente raide, où je voulais enchaîner les 4 phases de l'aiguille verte. Alors, monter par une face, redescendre par une autre, remonter par une troisième et redescendre la quatrième à ski. Bon, la quatrième, j'ai pas réussi à la redescendre à ski, mais bon, on a quand même fait le tour, un beau tour de la montagne. Hein. Voilà. Après, j'ai fait un hommage à un pote là qui est décédé, qui me fournissait en ski l'année dernière. Je suis parti de chez moi et j'ai rejoint. Donc moi, j'habite à côté d'Annecy et j'ai rejoint Serre Chevalier à côté de Briançon. Pareil en mode trail et ski de randonnée en autonomie complète à part le soir. J'avais les hébergements du soir, mais j'avais pas de ravitaillement entre. Donc là, c'était pareil. C'était une grosse bambée avec un sac de 18 kilos. Donc ça, c'était sympa parce que ça fait vraiment l'aventure à la maison, quoi. Tu pars de chez toi en France, quoi. Et puis parfois, tu te retrouves dans des situations où t'es à 2 heures d'une bagnole, mais t'es tout seul, t'es avec ton sac de 18, t'en chies et t'es comme si t'étais au fin fond du Népal. Donc ça, c'était assez sympa. Et oui, effectivement, il y a ce projet de la Meij où on a envie de faire une grosse traversée d'arêtes vers la Meij au-dessus de la Grave, dans le massif des Écrins, avec un copain. Et là, ça fait 3 ans qu'on cherche un créneau déjà disponible pour tous les deux. Ça, c'est le plus dur, je pense. Et après, il faut que le créneau disponible convienne avec la météo. Ça, c'est la deuxième difficulté. Et puis avec les conditions. Donc ça fait pas mal de paramètres qui doivent se rencontrer pour y arriver. Et bon, c'est pas grave, on, voilà, c'est une idée parmi d'autres, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est dans la même optique, c'est partir de la Grave, du petit village qui est en bas de la Meije, et puis monter sur l'Arrête, et puis après, c'est une traversée de pas loin de 11 km d'Arrête, assez difficile, ces côtés assez difficiles, et puis revenir au village et essayer de faire ça en le moins de temps possible, sans courir forcément, mais sans s'arrêter. C'est ça l'idée, c'est sans passer par la case refuge, parce que du coup, ça crée des conditions d'une aventure que tu peux pas avoir si tu passes par la case refuge, ou que tu peux moins avoir. C'est-à-dire, eh ben, il faut porter le gaz avec toi pour faire fondre de la neige, pour faire de l'eau, faut gérer la nourriture, faut gérer son entraînement, etc. Donc ça remet un peu la notion d'aventure dans les montagnes en France, alors que pas mal de gens pensent qu'il y a plus d'aventure en montagne en France à créer réellement. Mais moi, je pense le contraire. Et j'essaye de démontrer qu'on peut encore se créer plein d'aventures en changeant les paramètres, quoi.
Quand tu dis que c'est pas la première tentative que vous faites, qu'est-ce qui a échoué sur les précédentes ?
Oh, la première fois, c'est clairement les conditions, parce qu'on y était allé en septembre et il avait regelé sur les Arêtes, donc on avait du givre. Donc on a attaqué cette traversée, mais donc on était sur les rochers, mais avec des crampons aux pieds pour pas glisser. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on allait mettre 4 jours et c'était pas le but, quoi. Déjà, on n'avait pas ce qu'il fallait pour rester 4 jours là-haut. Et puis voilà, nous on voulait que ça avance quand même. Et c'était clairement dangereux. Clairement, le risque de glissade était vraiment dangereux. Enfin, était réel. Donc on a arrêté. L'année dernière, la Meije, le massif de la Meije a été impacté par des éboulements liés au réchauffement climatique, notamment, mais surtout l'année dernière, parce que entre le réchauffement climatique et des périodes de forte chaleur, de canicule l'été, on a un sommet là, à la Meije qui est très impacté. Et l'année dernière, c'était vraiment pas en condition. Il y avait vraiment des grosses tours qui menaçaient de tomber sur l'itinéraire. Et cette année, on n'a pas trouvé de créneau dispo pour tous les deux. Donc voilà. Tu vois, en fait, on a vraiment essayé qu'une fois. Le reste du temps, c'était juste, on n'arrivait pas à se caler, quoi.
C'est pas de chance.
Voilà.
C'est un quasi 4000, hein, si je me trompe pas, la Meije. Hein.
Ouais.
Et donc, à partir de quand tu considères que c'est de la haute montagne, tu vois, est-ce que c'est il faut nécessairement qu'il y ait de la neige, est-ce qu'il faut qu'il y ait, ou enfin du glacier pardon, ou est-ce que tu vois si tu montes à 3, 4, 5 000 sans forcément qu'il y ait de la glace, ça reste de la haute montagne.
Je ne sais pas si c'est une question d'altitude la haute montagne effectivement. Après, il y a quand même, dans la notion de haute montagne, il y a une notion d'engagement, plus que d'altitude. C'est-à-dire que faire une grande voie dans le Vercors, c'est pas considéré comme de la haute montagne. C'est plutôt de l'escalade en terrain d'aventure, on va dire ça comme ça. Par contre, traverser les Arêtes dans les Aravis, t'es pas vraiment dans de la haute montagne parce que t'es à 2600 mètres, mais t'es quand même dans du terrain d'aventure. Mais t'as de l'engagement parce que t'es quand même loin de la vallée. Alors que donc voilà, y a pas vraiment de limite. Je pense que c'est plutôt une manière de l'aborder. Voilà. On peut pas dire qu'en faisant la tournette, par exemple, qui est un classique de randonnée au-dessus du lac d'Annecy, en face de la haute montagne. Mais si on commence à faire la tournette par le cirque des Varros, qui est en face nord de la tournette. En hiver, là on commence à se dire ouais, ok, là on est en train de pratiquer quand même de la haute montagne, même si on est entre 1006 et 2600 mètres de dénivelé de hauteur. Donc voilà, c'est plutôt la manière plutôt que l'altitude en fait pour la haute montagne.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, tes enfants et ta femme, de ces risques que tu prends finalement en partant à chaque fois?
Alors ma femme, ma chérie, on parle beaucoup. Donc ça c'est vraiment ce qui nous permet d'être équilibré. Et moi, ça me permet certainement aussi de ne pas faire trop de conneries. Ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle m'a connu, on s'est connu en avril 2015. Et en août 2015, je partais pour 2 mois d'expédition entre Tibet et Népal. Donc, elle a très vite compris que ça faisait partie de ma vie et elle a accepté le package intégral, quoi. Et puis, moi, je lui ai pas fait subir ça dans le sens où il fallait que ça soit, fallait qu'elle soit d'accord avec ça, quoi. Donc, au niveau de ma chérie, on parle énormément. Parfois, il y a des moments pas de tension entre nous, parce que c'est pas de la tension entre nous, mais des moments où elle a peur pour moi, c'est pas 2015, c'est 2005 d'ailleurs. En 15 ans, elle a eu peur pour moi 2 fois, ça va encore, c'est raisonnable. Il faudrait pas que ça arrive plus souvent, mais voilà. Donc ça, c'est parce que en amont il y a beaucoup de discussions, parce que aussi après coup, ben on débriefe pas mal aussi. Avec mes enfants, on en parle pas mal aussi. C'est très ouvert. J'essaye de leur expliquer ce que je fais là-haut et puis surtout comment je me suis formé, comment les précautions que je prends, etc. Ça les rassure beaucoup. Maintenant, c'est sûr que les images que je peux partager, ça les rassure moins. mais c'est là où on voit aussi l'impact de l'image sur la notion de risque, quoi. Une image, tu as l'impression très vite que la personne prend des risques, mais tu ne sais pas toute l'histoire qu'il y a derrière qui l'a amené à faire cette image. Donc, c'est ça que j'essaye de leur expliquer, quoi. Et puis aussi, l'image, elle déforme beaucoup. L'image, c'est pas la réalité, etc., etc. Donc, voilà. Bon, eux, ils sont pas très montagne. Enfin, si, ils font du ski. Ils font tous du ski et puis ils aiment ça. Mais pas au niveau, hein. Ils font du ski, hein. Comme moi, je faisais du ski un peu plus que moi quand j'étais gamin, mais ils font du ski comme ça, en amateur. Mais ils sont pas très escalade. Là, on vient de faire 5 jours en montagne. On a fait des petits bouts de cailloux, etc., avec des cordes et tout. Ils aiment ça, mais sans plus. Donc moi, je force pas. On essaie de parler de ce que je fais, mais j'ai pas l'impression que, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça les traumatise, ni que ça. Je pense qu'ils sont contents de ce que je fais. Ils sont fiers de voir ma tête dans les journaux. mais c'est tout. Et je pense que c'est comme un papa normal, quoi. Tu vois. Voilà, ça change pas grand chose en fait.
Et t'as jamais perdu des phalanges, des gelures qui font que t'as pas eu de. Enfin, c'est quoi tes plus grosses frayeurs du coup?
Non, bah justement, c'est ce que. Enfin, moi, de toute façon, il y avait un truc qui était clair quand mon frère est décédé, et que j'ai choisi après d'être guide de haute montagne, c'est que mes parents, eux, ils sont encore là, hein, la première chose que je leur ai demandé, c'est voilà, j'aimerais faire guide de haute montagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprendrais complètement que vous ne vous acceptiez pas que je fasse ce métier. Et ils ont accepté. Et à partir de ce moment où ils ont accepté, je me suis dit, OK, ils ont accepté, mais moi, c'est interdiction qu'il m'arrive quoi que ce soit là-haut. Donc moi, il ne m'est jamais rien arrivé là-haut au niveau perte de phalange, etc. etc. On va dire qu'il y a une grosse partie de ça, c'est parce que j'hésite pas à faire demi-tour, à renoncer à pas mal de choses, c'est-à-dire à des projets entiers si je le sens pas. D'ailleurs, les 4 phases de l'aiguille verte, la dernière descente, c'était quelque chose qui était assez médiatisé à l'époque, hein, ce que j'avais fait, et puis avec un copain qui était venu m'aider sur la fin. On a renoncé à la dernière descente et il y avait des caméramans, etc. Mais moi, je m'en foutais complètement, quoi. Je me suis dit, non, moi, je le sens pas, on n'y va pas et on n'y a pas été. donc, même, je suis très, je renonce pas facilement, mais je renonce avec facilité. Quand je dis je renonce pas facilement, c'est parce que généralement la préparation en amont, elle est telle que voilà, il n'y a pas de, il y a pas de raison de renoncer. Mais voilà, si, s'il y a besoin, bah, comme à la Mège aussi, hein, on a renoncé avec Benjamin assez facilement. Ça nous a pas posé de problème. Donc il y a ça qui fait que bah, j'évite pas mal de d'être dans des situations compliquées. La plupart des projets que je mène à bien, c'est même pas la plupart, c'est tous. Il fait grand beau, il y a pas un pet de, il y a pas un problème météo quoi. J'aime pas aller surtout souvent j'y vais tout seul ou souvent c'est très engagé donc on voilà la météo elle est certaine quoi quand je fais ce genre de projet. Donc voilà. Et après, au niveau de mon travail avec mes clients, c'est encore pire. Je prends encore plus de précautions parce que là, je suis en charge de vie, quoi. Hein, donc voilà. Donc ça m'est arrivé d'avoir quelques frayeurs, surtout au début, concernant surtout les avalanches quand j'étais jeune guide, parce que j'estime mieux maîtriser maintenant, pas la neige, parce que la neige, on ne la maîtrise jamais, mais en tout cas les décisions. je pense que je maîtrise mieux le fait justement de renoncer plus facilement dans certaines conditions avalancheuses qu'avant. Et puis après, j'ai eu des frayeurs en expédition en 2007, notamment avec beaucoup, beaucoup de neige au camp de base. Et là, c'est là où j'ai eu le plus peur, c'est parce que là, il y avait rien qui était maîtrisable. Quand on s'est reçu 5 mètres de neige au camp de base, il y avait des avalanches de partout. La seule chose qu'on a réussi à bien maîtriser, où on n'a pas été idiot, c'est qu'on a posé le camp là où il fallait. Donc, on était assez loin des avalanches, même si on sentait quand même le souffle des avalanches sur nos tentes. Donc, on était assez loin, mais quand on n'y voit pas à 10 mètres et qu'il neige en permanence et que tu sens le souffle de l'avalanche, tu te dis, ouais, peut-être qu'on n'était pas si bien que ça. Enfin, voilà. les questions se posent. Là, il s'est avéré que la tente était vraiment bien posée. Les tentes étaient vraiment là où il fallait. Et voilà. Et du coup, c'est là où je rejoins aussi. Donc, il y a toutes ces précautions qu'on prend, cette constante attention au fait de, ben moi, pour moi, j'ai pas le droit et j'ai pas envie du tout de mourir là-haut. Moi, j'ai envie de mourir, comme je dis souvent, j'ai envie de mourir dans un lit d'hôpital tranquille ou pas d'hôpital d'ailleurs, mais dans un lit confort, peinard et le plus tard possible. Donc il y a ça. Et l'autre truc, c'est il y a une part de chance. Mais j'essaie de réduire au maximum cette part de chance pour vivre le plus longtemps possible. Parce que si je commence à compter sur ma chance en montagne, ça, c'est pas bon.
Mais alors, du coup, c'est quoi les deux frayeurs qu'a eu ta femme?
Alors, la première, bah, c'était justement pendant ce projet des quatre phases de l'aiguille verte. Parce que il y avait deux caméramans qui me suivaient, on était en contact au téléphone, on avait créé un groupe WhatsApp, sauf qu'il s'est avéré que les téléphones à un moment donné ils captaient plus quoi. Donc elle a eu des nouvelles pendant un laps de temps et puis après plus du tout de nouvelles. Moi je pouvais pas lui en donner parce que j'étais dans l'action. Mais normalement, on avait convenu avec les caméramans qui disent régulièrement, qui donnent régulièrement des nouvelles à ma chérie. Et ce qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'ils n'avaient plus de réseau, ils avaient les téléphones qui buguaient dans tous les sens. En plus, il faisait super froid ce jour-là, il faisait moins 15 au sommet, donc les téléphones, ils squeezaient complètement. Donc, elle n'a pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Et là, elle a eu peur parce qu'elle s'attendait à avoir des nouvelles et elle n'en a pas eu. Et la deuxième, c'était assez récemment sur un projet qui n'était pas autant d'ampleur, mais où on s'est pas calé avant. Tu vois, c'est à chaque fois, les deux fois, c'était des problèmes de communication où elle pensait que j'allais revenir à midi, que j'en avais pas pour longtemps, alors que moi, je lui avais dit, j'étais persuadé de lui avoir dit que j'allais en avoir pour beaucoup plus, que j'allais rentrer pas avant 5 heures, en tout cas que je lui donnerais pas de nouvelles avant 5 heures. Et là, c'est pareil, elle a, à partir de midi, elle a commencé à se poser des questions et à se dire, mais c'est pas normal qu'il soit pas déjà là. Donc voilà, ça, c'est les deux frayeurs. Problème de communication, plus que réellement des frayeurs. Voilà.
Mais c'est vrai que être précautionné en montagne, je pense que ça fait de mal à personne. Je pense qu'on est quand même sur un état d'esprit qui est plutôt bon dans ce sens-là, quoi.
Ouais, et puis surtout qu'on tu vois, il y a moi je suis assez contre le fait de la fatalité en montagne. Il y a une certaine fatalité, tu vois. Récemment, il y a encore un guide que je connaissais pas, hein, mais qui faisait avec ses clients la traversée de la Vallée Blanche, qui est faite mais des centaines de fois par jour en pleine saison. Et ce jour-là, ce guide-là, il est tombé dans une crevasse, et puis il s'est reçu de la neige sur la tête et il est mort. Donc ça, c'est de la fatalité, parce que t'as aucun moyen. Lui-même n'avait aucun, il a pas fait, il faisait pas plus chaud qu'un autre jour. Il y avait aucun moyen objectif de gérer ce risque-là. Mais t'as quand même la plupart du temps des moyens pour te dire non, ce jour-là, là, attends, là, il fait pas beau demain. Si je vais faire ça, bah, je vais prendre des risques. Alors, soit tu as une marge énorme dans ce que tu vas faire et tu fais quelque chose de très facile pour toi et le mauvais temps n'a pas trop d'incidence sur ton projet. Et à ce moment-là, pourquoi pas, tu peux essayer. Soit bah, tu n'y vas pas, quoi. Et la plupart du temps, bah, moi, quand c'est comme ça, j'y vais pas parce que ça a aucun intérêt en plus. La montagne, quand il fait pas beau, bon, c'est pas très intéressant à part l'intérêt de prendre des risques. Mais ça, moi, je le conçois pas. Voilà.
Tu pars combien de fois par an, typiquement, en comparaison? Tu me disais que tu avais grosso modo un projet par an perso. Et après, avec tes groupes, typiquement, tu pars combien de fois par an?
Les alors, ça s'est un peu accéléré au niveau des projets perso. Projets perso, j'en ai plus qu'un par an, clairement. J'en ai quasiment tous les mois. J'ai une idée en tête. Après, c'est pas forcément des projets comme le Tour du Queyras par les arêtes. C'est pas des projets sur du long terme. Ça peut être des petits projets à la journée ou à la mi-journée. Des gros projets comme le Queyras, effectivement, là, j'en ai plutôt un par an. Ouais. Des projets sur plusieurs jours, j'en ai un par an, voire presque, parfois pas du tout. Cette année, j'ai pas de projet sur du 3 jours, par exemple, comme ça. Mais voilà. Sinon, après, avec les gens, ça varie en fonction justement de ma disponibilité pour mes projets perso. On va dire que je suis entre 150 et 200 jours par an de guide. Voilà. Même si là, avec le Covid, j'ai vraiment perdu 2 mois, non, presque 3 mois d'activité. Ouais. Donc,
Ah, mais 200 jours par an plus tes projets perso, ça fait quand même beaucoup de temps en montagne.
ouais, c'est pour ça que je dis entre 150 et 200,
Ouais.
parce que quand j'ai beaucoup de projets perso, je suis plutôt sur 150. Quand j'en ai moins, bah, j'arrive à monter à 200 jours. Ouais, ça fait, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de jours passés en montagne. Ouais, énormément.
Tu t'es développé un dos spécial dormir sous la tente?
Non, bah, d'habitude, la plupart du temps avec les gens, on dort dans les refuges, hein, donc on a des beaux matelas, tout va bien. Les refuges, maintenant, ils sont confort, hein, il n'y a pas de souci. Ouais.
Est-ce que tu comptes arrêter un jour de faire de la montagne ou enfin en tout cas de est-ce que c'est quelque chose que tu comptes arrêter de faire un jour, Paul?
Non. Non, 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 clairement non. Moi, tu vois, là, je suis déjà en train de me dire, bon, j'ai 45 ans. La dernière fois, j'ai rigolé avec des clients parce que on était dans un refuge et je regardais les collines, enfin les collines, des montagnes un peu moins hautes que celles qu'on avait envisagées le lendemain. Et je me dis, ah bah voilà, quand je serai vieux, bah j'irai me balader par là-bas, quoi. Et je continuerai, je pense, à crapahuter, à faire de la randonnée jusqu'à ce que je puisse plus marcher, hein, ça c'est clair. Je continuerai à être en montagne parce que c'est pas, voilà, il n'y a pas que, c'est aussi ce que j'essaie de montrer, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, ok, il y a les glaciers, il y a les hauts sommets, il y a le Cervin, il y a le Mont Blanc, il y a l'Everest, tous ces grands sommets mythiques. Mais la montagne à vache dans le Jura, etc., pour moi, j'adore ça aussi, quoi. Ça me dérange pas d'aller, tu vois, faire une promenade sur le Salève à côté de chez moi. C'est de la montagne à vache. Et quand j'amène mes enfants, bah, j'adore regarder les petites fleurs, j'adore me balader en forêt. Donc, voilà, la montagne, elle a une dimension énorme. Et tout le monde peut se faire plaisir à sa mesure. Et moi, quand je pourrai plus me faire plaisir en haut, sur mes arêtes, ben, j'irai me faire plaisir en bas, dans les champs, et puis ça me fera tout autant plaisir.
Si tu passes 200 jours par an à la montagne, ça fait quand même quelqu'un de... Enfin, ça fait toi quelqu'un de très très fan de ça. Sur une semaine type, typiquement, si tu avais un truc à retirer qui t'embête au plus haut point, ce serait quoi ?
Un truc qui m'embête en montagne ou...
Non, mais sur une semaine type, comme tu vas avoir quelques jours à montagne, quelques jours chez toi,
ouais.
Est-ce qu'il y a un aspect de ta semaine qui t'insupporte et dont tu pourrais te débarrasser si tu pouvais ?
Ah, c'est compliqué ça, enfin c'est compliqué, c'est intéressant. Moi j'ai la chance d'avoir, non c'est ça qui est chiant, c'est parce que j'ai quand même la chance d'avoir une vie assez intéressante, donc j'ai pas, il y a pas grand chose à acheter dans mes journées.
Je te donne un exemple parce que c'est ce que j'imagine dans ton cas, c'est typiquement si t'es quelqu'un qui est très montagne, un des points que je trouverais intrigant ou à ne pas faire toi-même, c'est gérer la logistique d'inscription de tes futurs groupes, tu vois, par exemple. Est-ce que c'est pas un truc qui te... Ou est-ce qu'au contraire, cette adrénaline de dire, tiens, il y a un prochain départ, c'est intéressant ?
Ouais, non, ça me dérange pas tant. Non, ce qui me dérange vachement, c'est tout ce qui est administratif, quoi. Gérer mes papiers. Tu vois, ça c'est vraiment... Pas que les impôts, hein. Forcément il y a un peu les impôts, mais encore ça va. Mais c'est gérer tout, voilà, tout le courrier qu'on reçoit et puis auquel il faut s'y coller. Et ça me, ouais, l'administratif. Je pense que je sais pas si c'est de la phobie administrative, mais je suis très très mauvais, très très mauvais avec mes papiers. Ouais. voilà, c'est peut-être ça qui, ouais, effectivement, dans la semaine, si ça, je procrastine énormément là-dessus, quoi. Je remets ça toujours au lendemain, sur le lendemain. Voilà.
On n'a pas envie. Ouais, non, je comprends. Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Paul, est-ce que question qui a peut-être rien à voir, mais est-ce que tu as des gens en particulier que tu vas admirer, des gens qui vont t'inspirer, qui sont d'ailleurs pas forcément des montagnards?
Ouais, énormément. Moi c'est tous les moi je sais pas si c'est lié, ma mère était faisait de la peinture, elle faisait pas mal, elle continue d'ailleurs à faire du tissu, voilà. Enfin elle a une âme un peu artistique. Mais mes enfants ont beaucoup ça. Mes filles surtout ont beaucoup ça. Et du coup, moi ce qui m'inspire, c'est tous les artistes, mais artistes qui chamboulent un peu les choses, quoi. Moi, quand j'étais jeune, ceux qui m'ont inspiré, c'était Gainsbourg, Morrison, voilà, des Richard Bohringer, et puis en montagne, bah c'est ceux qui avaient cette dimension un peu artistique, qui amenaient une dimension artistique, donc c'était plutôt les Patrick Edlinger, les Patrick Béraud, les gens qui sortaient un peu de la compétition, mais qui étaient plus dans une dimension de recherche, de sens du geste, de beauté du geste. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi une des démarches que j'ai dans mes projets, c'est essayer d'avoir un beau geste, quoi. Faire quelque chose de beau. C'est assez important pour moi aussi. C'est pas uniquement du brut, c'est aussi du beau.
Et ils t'ont bercé du coup tout du long jusqu'ici ?
Ouais, clairement, il continue, et puis je suis toujours curieux de ça. Je suis toujours curieux des nouveaux artistes, que ça soit musicalement, que ça soit au cinéma quand on va se faire un film, ou en montagne. Ce qui m'intrigue, au-delà de la performance pure, que ça soit technique ou physique, moi je me dis, attends, c'est quoi le sens ? Comment il se déplace ? C'est quoi sa vidéo, à quoi, enfin, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est juste, il montre ce qu'il fait. Voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup partager sur les réseaux. C'est parce que je suis très mauvais, mais j'essaye quand même à chaque fois dans mes vidéos d'apporter un truc, d'essayer de, en tout cas, d'être le plus beau possible, quoi, le plus juste possible. Et ça m'intéresse, ouais. Voilà, moi, si j'ai un regret, c'est moi, j'aurais bien aimé être un jour voilà, être sur des planches, quoi, que ça soit au théâtre, que ça soit voilà, que ça soit acteur ou musicien, c'est vraiment des choses qui, ou danseur, je me dis tiens, ça j'aurais bien aimé faire, quoi. Si j'avais eu une autre vie, peut-être que j'aurais été là-dedans.
Il est jamais trop tard. Hein.
Ouais, clairement. Ouais, bon, après musicien, ça j'ai fait un trait parce que j'ai pas la patience. Non, et puis bon, voilà, je fais ce qui me plaît là-haut, donc c'est chouette.
Dans ces journées d'ailleurs que tu passes toute l'année à refaire peut-être parfois deux fois certaines balades, je me rends pas compte. Est-ce que tu as un peu ta petite, bon, j'utilise le mot comme ça, mais ta petite drogue quotidienne de il faut chercher encore plus pentu, encore plus haut, encore plus complexe éventuellement?
Non. Je peux avoir cette tendance, mais justement, j'ai ma femme et mes enfants qui me rappellent rapidement à l'ordre. Je pense qu'on a tous naturellement cette tendance, en fait, de quand on fait un truc dur, on a envie de faire plus dur derrière. C'est logique, c'est normal, c'est humain. Maintenant, moi, j'ai trouvé un peu la parade, surtout qu'avec mon âge, bah, je pense que je vais pas réussir à faire beaucoup plus dur très longtemps. Et du coup, moi, ma parade, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire de pas forcément plus beau, mais au moins aussi beau. Tu vois, c'est pour ça que je rejoins cette dimension artistique. Comment est-ce que je peux faire pour justement, bah, la prochaine fois que je vais me filmer, quel angle de prise de vue je vais pouvoir faire pour rendre tout ça plus intéressant? Bon, si j'y arrive pas, tant pis, je ferai avec ce que j'ai. La plupart du temps, c'est ce qui se passe parce que j'ai pas le temps de m'intéresser à la prise de vue. Mais j'ai toujours cette idée en tête de me dire, tiens, là, ah ouais, là, cette voix-là, elle me plaît. C'est pas forcément qu'elle soit plus dure. Mais par contre, pour moi, là, au moment où j'en ai envie, je me dis, c'est celle-là que j'ai envie de faire et je vais la faire. Ou pas, d'ailleurs, si je renonce. Mais en tout cas, je vais l'essayer. J'ai plutôt tendance à partir sur des envies que sur des plus durs, plus compliqués. Après oui, j'ai quand même au fond de moi cette idée de me dire, bon, c'est pas forcément plus dur ou plus compliqué, mais avec les moyens que j'ai moi, c'est-à-dire physiquement, bon, bah, je cours pas trop mal, je grimpe pas trop mal, même s'il y en a qui sont meilleurs que moi, en course à pied, il y en a qui sont meilleurs que moi aussi. Bon, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire qui soit fluide, qui soit intéressant, qui soit logique et qui soit beau. Voilà. En gros, c'est ça. C'est cette recherche de fluidité et de sens qui me fait porter mes choix sur certains projets plus que d'autres, quoi. C'est sûr que, tu vois, je vais pas aller m'amuser à essayer de battre le record de la face nord des Grandes Jorasses et essayer d'aller le plus vite possible sur les Grandes Jorasses. Mais par contre, ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'essayer de faire les Grandes Jorasses que je n'ai jamais faites, la face nord, mais en partant de Chamonix et puis aller de l'autre côté de la vallée à Courmayeur dans la journée. Ça, je commence à me dire, ah ouais, ça serait intéressant. Sans reconnaître la voie avant. Ah, alors là, c'est encore plus intéressant. Et voilà, c'est ça qui, voilà. Et après, ça sera pas forcément un exploit, mais parce que j'irai pas, certainement pas plus vite, c'est sûr et certain même, que celui qui l'a fait en 2 heures. Mais l'aventure m'intéresse. Voilà. Bon, après, est-ce que j'en serai capable? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est l'autre étape, c'est savoir si j'en suis capable. Ça, on verra.
C'est passionnant, Paul, et ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Donc avant qu'on termine, là, j'ai 3 petites questions pour toi. La première, c'est typiquement sur cette lancée de montagne. Si tu as un petit jeune qui s'approche et qui veut te demander comment faire pour devenir guide de haute montagne, qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est quoi les étapes?
Alors pour être guide, je lui dirais qu'il faut aimer les gens. Pour être vraiment professionnel de la montagne, il faut vraiment, la première des choses, c'est aimer les gens et aimer la montagne après. Je pense qu'il faut pas, faut éviter d'inverser le truc. C'est-à-dire que si toi t'aimes beaucoup la montagne mais que t'aimes pas les gens, ça, à un moment donné ou à un autre, tu changeras de métier. Peut-être que tu le feras pendant quelques années, mais à un moment donné, c'est comme dans tous les métiers, hein. C'est comme le prof qui aime beaucoup sa matière, mais qui aime pas les élèves. À un moment donné ou à un autre, il va plus être prof. Enfin, ça, ou bien il va être mauvais prof. Pareil pour la restauration. Un mec qui sait très bien faire la cuisine, mais qui aime pas les gens, qui aime pas faire plaisir aux gens, et ben il va se plaire à faire plein de trucs bizarres, mais les gens ils vont pas aimer. Donc voilà. Et guide, c'est pareil. C'est que t'as beau aimer beaucoup la montagne, il faut quand même vachement aimer les gens. Et après, pour un jeune, j'ai déjà discuté pas mal avec pas mal de jeunes qui me suivent. Lui donner un conseil, c'est prends ton temps. Prends ton temps. Et c'est vachement dur pour un jeune d'entendre ça. Moi, je pense que je l'aurais pas fait. Si quelqu'un m'avait dit prends ton temps, j'y serais allé comme une balle quand même. Mais c'est le seul conseil que j'arrive à donner. Parce que moi, je me dis, je suis devenu entre guillemets sportif de haut niveau à 40 ans, si on peut. Donc en montagne, ça, le rapport entre ta jeunesse et ton expérience est vachement importante. Et plus t'as d'expérience, plus tu vas te faire plaisir en montagne. Donc prends ton temps parce qu'au départ, t'es tout feu tout flamme et tu vas faire des belles choses. Mais après, faut avoir. Je pense qu'il faut avoir une expérience de vie pour l'apprécier, quoi. Faut avoir du recul là-dessus.
Canon. Du coup, tiens, tant qu'on y est, deuxième question sur cette partie de suivre. Comment on fait pour te suivre, Paul? Qu'est-ce que tu as, des réseaux sociaux, des films, des livres? Comment on fait?
Moi, j'ai une page Facebook pro, Paul Bonhomme. Je suis sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube aussi pour mes films. J'ai écrit un bouquin aux éditions Guérin qui s'appelle Red Vivant, qui est sorti en janvier 2020. Canon. Que tu peux trouver normalement dans pas mal de librairies à droite à gauche. Il est disponible aussi sur internet, mais c'est bien d'aller sur les librairies quand même indépendantes, c'est mieux. et puis voilà, donc ça fait déjà pas mal d'endroits où me retrouver, ouais. Et puis sinon tout simple, hein, Google Paul Bonhomme alpiniste ou skieur, et puis vous trouvez tout ça sur Google ou un autre modèle de recherche, voilà.
Parfait. Et donc, du coup, dernière question un peu plus subtile. Si on a la technologie pour te faire repartir en arrière et que tu peux rencontrer Paul, qui est encore maçon et qui va s'apprêter à avoir le déclic de devenir plus justement dans la montagne, se lancer guide, qu'est-ce que tu lui dis?
Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je pense que je ne lui dirai pas autre chose. Je dirais pas autre chose parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé, quoi. C'est depuis que mon ex-femme a pris cette décision, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, il m'est arrivé, il y a tout qui s'est aligné dans le bon sens, quoi. Donc voilà, fais-toi plaisir. Et puis si j'ai un autre conseil à donner, c'est on croit souvent qu'il y a plein de choses qui sont inatteignables. Moi je pense que la plupart des choses sont atteignables, ce qui m'a fait réussir ce que je suis en train de faire, et puis du coup le bonheur que je peux vivre maintenant, c'est juste à un moment donné de se dire faire les choses correctement avec vraiment son éthique, ça, ne pas sortir de tout ça, quoi. Vraiment rester hyper fidèle à son éthique, ses valeurs, parce que c'est ça qui te permet de concrétiser tes rêves et tes projets, quoi, clairement.
Mais je suis bien, ouais, d'accord. Merci Paul pour ce magnifique temps et cette heure passée avec toi. Donc on a hâte de pouvoir lire ton bouquin qui du coup est disponible et te suivre sur les prochaines expéditions. Et puis du coup, j'espère à une prochaine.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et merci à toi pour ce bon moment aussi. Ouais.
À bientôt.
À bientôt, salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.